Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance du réveil. Nous arrivons à l'étude numéro 8 et c'est la deuxième partie des grands réveils qui ont eu lieu plus récemment. Nous avons par exemple Smith Wigglesworth de 1859 à 1947. Le grand réveil gallois ne fut jamais limité. Ceux qui avaient faim et soif de Dieu sont allés au pays de Galles à sa recherche et remportèrent avec eux des braises qui, par la suite, ont pu allumer des feux dans toute la Grande-Bretagne ainsi que dans le monde entier. Parmi ceux qui furent touchés par le Saint-Esprit, il y a eu un jeune Anglais qui s'appelait Smith Wigglesworth. Il était devenu célèbre. Il avait toujours faim des choses de Dieu. Et c'est là une des merveilles du réveil. Plus on reçoit de Dieu, plus on en veut encore. Smith Wigglesworth n'a eu de cesse que le Seigneur l'ait rempli du Saint-Esprit. Il devint le père de la Pentecôte en Angleterre. Le docteur James Reid a dit que Wigglesworth introduisit la Pentecôte en Angleterre, tandis que le père de Reid, Andrew, fut celui qui l'apporta en Écosse. La femme d'Andrew Reid, qui s'appelait Hélène, elle fut également sauvée au contact du ministère d'Evan Roberts lorsqu'elle se rendit au pays de Galles. Dès leur conversion, ils furent baptisés, mais le froid était tel, et c'est une réalité, qu'il fallut carrément briser la glace. Et elle a dit, dans son témoignage, qu'elle n'a même pas senti le froid terrible de l'eau. Voilà ce qui se passait lorsque le feu du Saint-Esprit coulait en eux. Andrew Reid et Smith Wigglesworth étaient les meilleurs des amis, de véritables amis, dans le Seigneur. Wigglesworth était de Cornouailles, un homme sans instruction, dont on disait qu'il assassinait l'Anglais du roi. Son épouse Polly lui apprit ce qu'il en savait en se servant de la Sainte Bible. Elle discernait pour lui l'appel de Dieu et l'encourageait à parler. Mais jusqu'à sa mort, c'est surtout elle qui prêchait. Or, quand le Seigneur la reprit auprès de lui, ce fut un grand choc terrible. Et son chagrin était profond. Et c'est alors qu'il fit un pas glorieux et il est ainsi devenu l'homme de Dieu. Il parlait, agissait et vivait uniquement par l'Esprit Saint. Il devint un grand revivaliste et l'un des plus grands hommes de foi qui ait jamais vécu. Dès lors, non seulement la Bible était le moyen par lequel il apprenait un bon anglais, mais elle était toute sa vie. Ce fut le seul livre qu'il lut, on peut dire jour et nuit, et cela jusqu'à la fin de ses jours. Il l'avait toujours sur lui, et partout où il allait, et en connaissait, paraît-il, une grande partie par cœur. Du reste, avant de prêcher, il attendait que l'onction du Saint-Esprit descende sur lui, et ce n'est que après avoir reçu la Shekinah de gloire qu'il ouvrait la bouche pour parler. C'est seulement à ce moment-là qu'il sentait qu'il pouvait ouvrir sa bouche. C'est assez exceptionnel. C'était toujours par révélation qu'il prêchait. Et en général, sa prédication durait environ, on peut dire, parfois jusqu'à 2 heures, sans que quiconque ne se lasse. Les enfants aussi l'aimaient, car eux aussi, ils le trouvaient merveilleux. Il leur faisait entrevoir le ciel. James Ride, qui le connaissait très bien, il disait, il nous faisait entrer dans le sein des saints. Il voyageait beaucoup pour porter la bonne parole, et une fois par année, il visitait ses vieux amis Andrew et Helen Ride en Écosse. À l'une de ces occasions, Dieu s'est servi de lui pour accomplir un miracle de guérison hors du commun. En arrivant, il trouva leur fils James, âgé de 17 ans, en train de mourir d'une tumeur cancéreuse qui se trouvait au cerveau. Le médecin lui donnait 2 à 3 mois maximum pour vivre. Alors le pasteur Reid dit à Wigglesworth, « Mon ami Smith, Jim est mourant, mais je ne crois pas que ce soit vraiment la volonté de Dieu. Je crois qu'il a une mission à accomplir dans sa vie. » Et Smith de lui répondre, « Andrew, si vraiment tu le crois, alors il faut t'en tenir à cela. » Ou si il imposa les mains au jeune James, et Dieu commença de le guérir. Car 3 mois plus tard, il fut complètement guéri, et à 82 ans, il se trouvait encore en parfaite santé et pouvait continuer de servir le Seigneur. Les enfants avaient beaucoup d'affection pour lui, et James Ride racontait combien il attendait les visites de l'oncle Smith, et cela avec impatience, car il les taquinait. Au repas, lorsque la nourriture était sur la table et qu'on lui demandait de rendre grâce, il demandait aux enfants « Avez-vous faim ?» Alors par politesse, il répondait, « Non, non, on n'a pas tellement faim. »« Alors bon, » disait-il, « alors nous pouvons dire une très longue prière. » Après cela, quand il demandait s'ils avaient encore quand même faim, et qu'ils répondirent « Oui », alors il faisait une très courte prière, « Simplement, Seigneur, veuille bénir ce repas. Amen. » Ceci était très apprécié des enfants et c'était l'une des raisons pour lesquelles il l'aimait tellement. Évidemment, on ne peut pas comparer tout ce que vous venez d'entendre avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'Internet, avec tous les gadgets que les enfants ont, on ne peut pas comparer. C'est un monde totalement différent. Il y avait encore la possibilité d'avoir des sentiments très profonds pour le Seigneur. Et c'était quelque chose qu'on ne peut plus répéter aujourd'hui, malheureusement. Smith Wigglesworth mesurait 1,83 m et il avait la démarche d'un prince. Lorsqu'il entrait dans une pièce, dans un magasin ou qu'il montait dans un train. La présence de Dieu Tout-Puissant l'accompagnait partout. Les gens pleuraient. Il y en a qui tombaient à genoux pour se repentir et d'autres se demandaient simplement ce qui leur arrivait. Encore une fois, vous avez compris que nous sommes dans un monde aujourd'hui totalement différent. Nous sommes dans le monde de la fin de cette, on peut dire, de ce qui va venir le pire, c'est l'Antéchrist, et nous sommes donc pas loin de cela, hélas. Mais revenons à notre histoire. Il était, Smith Wigglesworth, absolument authentique. Il était direct, et il était d'une grande franchise. Il n'avait pas besoin d'avoir une langue de bois, comme les présidents d'aujourd'hui. Certains le trouvaient un peu trop brutal, c'est-à-dire dans sa manière de prier pour les malades, et lui de répondre qu'en même temps, il chassait le démon. Et c'est en effet ce qu'il faisait. En effet, des esprits de surdité, de cancer, d'arthrose et de toutes sortes d'infirmités reconnaissaient l'autorité de cet homme de Dieu et quittaient leur victime lorsqu'ils prononçaient le saint nom de Jésus. À propos de sa manière de prier pour les malades, James Ride disait que lorsqu'il avait prié pour lui, il lui avait presque arraché les oreilles. En imposant les mains, il lui arrivait d'écraser le chapeau sur la tête d'une malade, mais, elle repartait toujours guérie. Le docteur Wright disait, c'était l'homme dont se servait Dieu. D'autres ont essayé de faire comme lui, mais cela n'aboutissait que à une tragédie. Smith Wigglesworth, Andrew Ride et leurs familles respectives, ont finalement émigré ensemble sur le même paquebot en direction de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Ensemble, ils y inaugurèrent le ministère de la Pentecôte, avec la même consécration. Ils ont servi le Seigneur et ils sont morts le même mois. Lorsque Andrew Ride a appris la mort de son ami Smith, il a dit à son fils Jim, « Smith m'a précédé. Lorsque toi et la famille arriveront au ciel, Jim, sache que notre maison sera dans la même rue, la maison voisine de celle de notre ami Smith. » Wigglesworth jouissait d'une très bonne santé et il prêcha jusqu'au jour de sa mort. Il venait de prêcher à l'invitation du pasteur Richardson lorsqu'il rejoignit l'entrée de l'église où il tomba carrément dans les bras de Jésus. On trouva dans sa poche une lettre qui était adressée à la maman de James Ride. Ce fut la dernière lettre qu'il écrivit et par la suite elle lui fut d'un grand secours car un mois plus tard elle devait perdre son cher mari. Voici l'extrait d'une lettre que a écrit le docteur James Ride, fils d'Andrew Ride, qui avait été guéri d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Lettre personnelle à Quinn Shaw, de la part du révérend docteur James Ride, 8086 South Yale, suite 313, Tulsa, Oklahoma, le 17 mai 1988. Chère sœur en Christ, merci de votre dernière lettre. Avec vous, votre chère Marie, ceux d'Engelthal et ceux qui vous accompagnent, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Diana, son épouse et moi, travaillons à Tulsa comme aumônier et conseiller. Nous collaborons également à plein temps avec Christ Care Ministry. J'ajoute au programme notre étude biblique hebdomadaire chez Oral Roberts tous les vendredis entre 10h et midi. Cela m'a beaucoup intéressé d'apprendre votre désir de vivre la prophétie de Smith Wigglesworth. Peut-être ne savez-vous pas que mon père, le pasteur Andrew Ride, est ce grand homme de Dieu. Étaient de très grands amis. Mon père fut le premier pasteur pentecôtiste en Grande-Bretagne et lui en Écosse, et Smith Wigglesworth en Angleterre. Lorsqu'il venait chez nous, tous les années, c'était un événement. J'avais 17 ans lorsque je suis tombé très malade d'un cancer du cerveau. Je devais perdre mes facultés et mourir. Or, Smith Wigglesworth m'imposa les mains et ce fut comme une puissante régénération, car 3 mois plus tard, j'étais complètement guéri. J'étais sauvé et rempli du Saint-Esprit. Il m'imposa les mains et prophétisa que je porterai la sainte parole dans le monde entier. Gloire à Dieu, et cela s'est accompli. Wigglesworth tenait une grande place dans le cœur de ma mère, comme dans celui de sa chère épouse Ruth, une grande servante du Seigneur. Il écrivait tous les années à ma mère, et je vous envoie 6 juin, celle qui lui a écrit la veille de son passage dans la gloire. Et vous verrez qu'il n'avait pas d'instruction. La Bible fut toute sa lecture et il l'a mémorisée en entier. Mon père disait que Smith, c'est une Bible ambulante. En 1952, lui et mon père sont partis en Nouvelle-Zélande et en Australie pour y créer le mouvement de Pentecôte. Sur le bateau, mon père disait, « Est-ce que nous commençons par l'école du dimanche ?» Alors Smith Wigglesworth lui a répondu, « Mais tu as 10 enfants, Andrew, et c'est là que nous allons commencer maintenant. » De ces petits commencements ont pu surgir les assemblées de Dieu par la suite. Non seulement Smith Wigglesworth était prophète et apôtre du Seigneur, mais il était aussi un homme chaleureux. C'était une véritable bénédiction de le rencontrer et de le connaître. Il était carrément unique. Ma femme Diana a terminé ses 2 années au collège Réma, et nous sommes tous les deux membres de l'église Réma. J'apprécie énormément les messages de Kenneth Hagin et la puissante onction du Saint-Esprit sur ses enseignements. Un ami qui lui aussi aime Kenneth Hagin me demanda, « Vous qui avez connu Smith Wigglesworth, est-ce qui lui ressemble ?» Je devais répondre, « Voyez-vous, il est impossible d'évaluer ou même de comparer, car lorsque Wigglesworth partit dans la gloire, sachez que Dieu a cassé le moule. Smith et mon père moururent en ce même mois de mars 1947. Mon père m'a dit, Smith est parti en avant Et quand toi et la famille vous arriverez au ciel, eh bien vous trouverez votre demeure dans la même rue. Mon neveu David Reid est pasteur à Melbourne, en Australie, d'une église dont les fidèles sont des gens merveilleux. Une maison d'édition m'a demandé d'écrire un petit livre sur les grands personnages du pentecôtisme. Alors j'ai rencontré Smith Wigglesworth, ainsi que les deux frères George et Stephen Jefferies, qui ont fondé les églises Elim, très importantes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donald G. était aussi un ami de la famille, ainsi que le pasteur Richardson, chez qui Smith Wigglesworth prêcha son dernier sermon. La lettre ci-jointe était dans sa poche pour être envoyée à ma mère, sa sœur en Christ. Unis dans la grande moisson, avec nos bénédictions et notre affection dans le Seigneur Jésus, James and Diana Reid. Le docteur James Reid est un serviteur des derniers temps et sa femme une servante des derniers temps. Et c'est pour nous un honneur de les avoir comme associés à notre ministère. Et voici la lettre qui avait été adressée à Madame Andrew Reid par Smith Wigglesworth, 70 Victor Road, Heaton, Bradford, Yorks, le 11 mars 1947. Ma chère sœur en Christ, merci pour votre lettre bien reçue. Tous les saints sont éprouvés. C'est la preuve que nous lui appartenons. Mais nous sommes plus que vainqueurs en lui. L'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or éprouvé par le feu. Le 4 janvier de cette année, Dieu me donna une véritable victoire sur un grand cas de cancer. Tôt le matin, Dieu me donna Luc, chapitre 10, verset 19. Je te donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne te nuira. J'ai prié pour ce cas très grave. Elle avait perdu presque toute sa chair et sa force, la peau et les os, et elle était sans force. Elle ne pouvait ni marcher, ni se servir de ses bras. La présence du Seigneur était absolument sensible. Lui-même a fait un grand miracle dès qu'elle a reçu l'imposition des mains. Elle a pu marcher, elle a pu se servir de ses bras et elle ne souffrait plus. Environ 10 personnes sont entrées dans la chambre et ils ont dit à l'unisson, en même temps, que jamais nous n'avons vu une pareille chose. Vous pouvez comprendre combien la joie et la présence du Seigneur remplirent la maison. Vous pouvez donc imaginer combien la maison était pleine de joie dans le Saint-Esprit. Signé Smith Wigglesworth. Une remarque importante. Souvenez-vous que Smith Wigglesworth était illettré, mais sa connaissance de la Sainte Parole de Dieu et sa présence furent remarquables. Évidemment, des corrections de ponctuation et d'orthographe ont été faites, ainsi que des mots rajoutés par les éditeurs afin de pouvoir faciliter la lecture. Ensuite, chers auditeurs et auditrices, nous avons le réveil de Azusa Street. Aucun des grands réveils ne ressembla à l'œuvre surprenante et merveilleuse du Saint-Esprit dans la ville de Los Angeles qui avait commencé en 1906. Ce ne fut pas tellement la conversion des pécheurs, mais plutôt la Pentecôte qui venait sur l'Église de Jésus-Christ. Des gens de toutes les églises, de toutes dénominations, de toutes nations venaient à Los Angeles pour voir ce que Dieu y faisait, et la plupart rentraient chez eux, leurs coupes totalement remplies et débordantes. L'instrument utilisé par Dieu était un prédicateur noir. Il était borgne et inconnu, portant le nom de W.H. Seymour. Le frère Seymour, que Dieu utilisa pour apporter le message qui avait bouleversé le monde, il est né en Louisiane. Il fut sauvé et sanctifié au contact des saints de la lumière du crépuscule, un groupe du mouvement pour la sanctification, c'est-à-dire Holiness Group. Il vint à Houston, Texas, où il rencontra la sœur Farrar, qui présidait une petite mission. Elle fut dirigée vers une école biblique du Kansas et l'on demanda au frère Seymour, qu'il était membre de cette église, d'en être le pasteur pendant son absence. Après son départ, la sœur Farrar fut éclairée par Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, et elle chercha une plus grande connaissance de Dieu, et l'Esprit Saint la visita avec une telle puissance qu'elle ne put rester à l'école biblique, mais elle rentra à Houston pour témoigner de sa merveilleuse et de sa nouvelle expérience. Et c'est à ce moment qu'une certaine sœur Terry alla à Houston. Elle avait entendu dire qu'un groupe de Noirs de Los Angeles s'était mis à part pour le service du Seigneur et avait formé une petite église dans l'avenue Santa Fe. Elle se sentit dans ce lieu, elle se rendit donc dans ce lieu, et elle y rencontra la responsable qui s'appelait Julia Hutchins ou Hutchins. Lorsque elle alla à Houston pour visiter sa famille, eh bien ce fut la mission pour la sanctification qu'elle se rendit, et c'est bien là qu'elle rencontra le frère Seymour. Et vint ensuite une baptiste du nom de sœur Asbury, qui l'invita à venir faire des réunions de prière chez elle. Et c'est ainsi qu'ont commencé chez le frère et la sœur Asbury des réunions de prière qui se prolongèrent tard dans la nuit. L'Esprit du Seigneur avait touché le cœur du frère Lee, et cela à tel point qu'elle priait constamment. Il était gardien dans une banque depuis des années, et il racontait comment il allait se cacher dans le sous-sol pour prier. Or, un jour, le Seigneur lui donna une vision où il a pu voir deux hommes qui se sont approchés de lui. Apparemment, c'était pour lui Pierre, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et il leur dit qu'il ne dormait pas, mais qu'il priait. Et ils le regardèrent, et ils levèrent les bras vers le ciel, et ils se mirent à trembler sous la puissance de Dieu, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors il se leva, tremblant, lui aussi, sous la puissance de Dieu, mais ne sachant pas ce qui lui était arrivé. Souvenez-vous qu'il a bien dit qu'il avait reçu une vision en rentrant chez lui ce soir-là. Il dit au frère Seymour, « Maintenant je sais ce que ressentent les gens quand ils reçoivent le Saint-Esprit. » Le frère Seymour avait expliqué certaines manifestations au groupe. Cela leur parut trop bizarre et le frère Seymour ne parvint pas à leur faire comprendre tout cela. Ils devraient donc le vivre eux-mêmes pour mieux comprendre. Après avoir eu cette vision, sa faim de Dieu était encore plus sensible à son cœur et sa recherche du baptême toujours plus ardent. Or un soir, en rentrant de son travail, il dit au frère Seymour, « Si vous m'imposez les mains, je recevrai le baptême maintenant. » Et le frère lui a répondu, « Non, 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 le Seigneur ne veut pas que j'impose les mains brusquement à n'importe qui. Mais plus tard, et oui, plus tard, ce soir-là même, il a pu dire au frère Lee, « Frère, maintenant, j'ai reçu la permission de t'imposer les mains au nom de Jésus. » Et lorsqu'il le toucha, le frère Lee est tombé comme mort sous la puissance et son épouse a été tellement choquée et elle a eu tellement peur qu'elle a dit, « Mais qu'avez-vous fait à mon cher mari ?» Quelques minutes plus tard, il se leva et alla s'asseoir sur une chaise. Le frère Seymour leur dit plus tard que voyant leur inquiétude, il avait demandé au Seigneur de le relever, quoique il n'ait pas terminé tout ce qu'il avait à lui donner. Le frère Lee avait été touché par le ciel et il continua jour et nuit à chercher le Seigneur. Le frère Seymour, leur ayant parlé de la sœur Farrar, rencontrée au Texas et qui l'avait éclairé sur Actes chapitre 2, verset 4, ils voulurent donc la rencontrer, rassemblèrent tout le prix, vous avez compris, de son voyage, et ils l'invitèrent. Et lorsque le frère Lee rentra un soir et trouva la sœur Farrar, il tomba à genoux à ses pieds et il dit, « Sœur, si vous m'imposez les mains, je crois que je recevrai mon baptême. » Et elle répondit, « Je ne peux pas le faire si je n'en reçois pas l'ordre du Seigneur. » Vous avez compris, vous qui écoutez, que c'est important de ne pas imposer les mains à la légère, trop hâtivement. Plus tard, pendant le dîner, la sœur Farrar se leva et elle se dirigea vers le frère Lee et lui dit, « Oui, le Seigneur me dit de vous imposer les mains afin de recevoir le Saint-Esprit. » Elle obéit et il tomba de sa chaise comme mort. Puis il se mit à parler en d'autres langues. La sœur Lee et son frère furent surpris que les choses se soient passées aussi simplement. Il parla en langue quelques instants, ensuite il se releva. Ensuite, ils se rendirent tous à la réunion de prière chez les Asbury, où ils trouvèrent 6 personnes déjà agenouillées dans la prière. En rentrant, le frère Lee leva les mains, pria en langue, et la puissance tomba sur toute cette petite assemblée qui se mit à parler en langue. Cette nouvelle fut vite répandue. Ils prièrent ainsi pendant 3 jours et 3 nuits. Les gens venaient de partout dès le lendemain matin. Il était même impossible de s'approcher de la maison. Dès que les gens y pénétrèrent, ils tombèrent sous la puissance et la ville toute entière fut secouée. Ils prièrent avec une telle force que même les fondements de la maison furent ébranlés, mais il n'y a pas eu de blessés. Pendant ces 3 jours, beaucoup ont été baptisés, mais parmi les curieux également. Oui, les malades ont été guéris et les pécheurs ont été sauvés. Alléluia! Ensuite, ils se mirent à la recherche d'un autre lieu de rencontre et trouvèrent une ancienne église méthodiste délabrée et abandonnée depuis des années dans la rue Azusa. Et là, il semble que ce lieu était en attente, car c'est là que a commencé le grand réveil mondial, où des centaines, des milliers se rendirent des 4 coins du monde. Et cette réunion avait duré 3 ans, nuit et jour, sans interruption. Vous pouvez le croire ou pas le croire, mais en recherchant sur Internet, vous trouverez que c'est la vérité. Ceci fut extrait d'un article par Mother Cotton dans le Message de la foi d'avril 1939. Écoutez cela. Ce réveil fut accompagné par les signes et des prodiges. Les dons du Saint-Esprit furent redonnés à toute l'Église. Les gens furent remplis du Saint-Esprit. Ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Les signes et les prodiges étaient manifestés. Pendant ce réveil, Joël chapitre 2 verset 28 et Actes chapitre 2 verset 17 commencèrent à s'accomplir puissamment alors que Dieu mettait son onction sur ses filles pour qu'elles prêchent l'Évangile. Quelques-unes d'entre elles, dont Maria Woodward Ether, prêchaient déjà avec les signes accompagnant la prédication dès les années 1880. Mais maintenant, le Seigneur en appelait bien d'autres, et les hommes qui autrefois s'y seraient opposés ont pu voir leurs sœurs d'un tout autre œil. Ils ne les voyaient plus comme des femmes qui, à cause de leur sexe, devaient être absolument interdites de prêcher ou d'être missionnaires, de militer avec zèle et avec un cœur sincère pour que des âmes puissent être sauvées, mais comme des vases qui sont remplis par le Saint-Esprit et qui sont envoyés de Dieu pour faire déborder sur autrui ce qu'elles avaient reçu, que ce soit au moyen de la prédication, de la prophétie, de l'enseignement ou du témoignage. Car maintenant, le Saint-Esprit était répandu sur toute chair, les hommes et les femmes, et tous étaient appelés à annoncer les oracles de Dieu. Amen. Chers amis, nous allons maintenant prier, si vous le voulez bien. Mais étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est plus que jamais sujet de tomber malade, vous l'avez compris, la pollution de l'air, de l'eau, de l'environnement, le changement climatique, des chaleurs inhabituelles, des sécheresses ou des trombes d'eau où tout est inondé, sans compter des nouveaux fléaux qui sont terribles. La raison pour laquelle, chers amis, le Seigneur désire que je vous soumette des prières inspirées par son Esprit Saint pour vous permettre à vous de les utiliser et de les adapter à votre situation personnelle. Prions. Seigneur Dieu et Père, dans mon besoin, je viens à toi dans la prière. Que le Saint-Esprit puisse grandir en moi de plus en plus pour remplir tout mon être jusqu'à ce que mon âme et mon esprit puissent transporter la lumière de ta gloire. Je me confie totalement en toi, sachant que tu œuvres en moi pour mon bien. À cet instant, je fais totalement confiance à la puissance de ton amour et de ton désir de me guérir. Permets que rien ne puisse venir qui puisse ébranler la foi qui s'est fortifiée en moi par ta sainte parole. Merci mon Dieu et Père que tu m'as donné la ferme conviction que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a donné sa vie pour nous accorder le salut de notre âme, oui, il désire également guérir et restaurer mon corps pour mieux te servir, ce qui est sincèrement mon désir. Oh, je te remercie, Jésus-Christ, que ton esprit de vie et de la divine lumière est en moi maintenant pour effectuer ma guérison. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Pas toujours facile. Et demain matin, Dieu voulant, la suite de cette série, que le Seigneur vous bénisse, car il aime tous ceux qui ont compris, comme je l'ai compris, en son temps, que j'étais perdu totalement et que sans lui, j'allais tout droit à la mauvaise place. Vous savez ce que je veux dire. Or, il m'a sauvé parce qu'il a versé son sang précieux à la croix. Il a payé tout le prix, pas seulement pour moi, mais également pour vous qui écoutez. Il vous aime au-delà de tout. Soyez donc bénis. Et Dieu voulant, à demain matin. Au revoir.